Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 28 juillet. Oh, petite journée ensoleillée sur le bord d'une canicule,
mais
peut-être.
Humide.
Mais après, un magnifique feu d'artifice hier. Hein? Et c'était beau.
Surtout que tu en avais parlé la semaine d'avant.
Et c'est très rare qu'on peut avoir un feu d'artifice public comme ça.
Accessible à tous.
Entièrement à l'île de Montréal. Hein?
Oui.
Bien, vous avez reconnu mes colocs.
Oui.
Ils ont toutes sortes de noms, hein, les moustiquaires, ça,
oui.
les moustiquaires, les mousquetaires.
Oui, c'est mieux comme
d'une
ça.
D'une semaine à l'autre.
Bonjour, ben, Michel.
Cette semaine, ça va être des moustiquaires, par exemple.
Oui, c'est ça. Donc, j'avais reconnu Marie Lalande et Yvan Deslauriers. Ils sont avec moi pour parler de voyage, de nature, de science, mm-hmm. toutes sortes de choses intéressantes. Marie, par exemple.
Oui, alors, dans un premier temps, je vous parle de l'humain qui aurait enclenché la sixième grande extinction. Ça va être un peu un sujet plutôt sérieux.
Oui.
Et en deuxième partie d'émission, je vous parle de moustiques piqueurs.
C'est la saison.
C'est la saison.
Et c'est pour ça que j'ai appelé les moustiquaires.
Oui, voilà.
C'est ça.
Voilà.
Alors, moi, de mon côté, la semaine dernière, je vous ai amené à Glasgow. Mais là, on s'en va dans la campagne autour de Glasgow. Puis, entre autres, je vous parle de whisky.
Là-dedans.
Et de d'autres choses, mais je ne vous le dis pas tout de suite. Et mon deuxième sujet, je vous fais visiter une ville étonnante, Montréal.
Ah oui?
Oui, oui. Surtout à cause des lumières de Montréal.
Faudrait y aller.
Oui,
toi?
Oui, sérieusement.
Et toi, Michel?
De mon côté, je vais vous apporter des informations sur les oiseaux. Toutes sortes de choses différentes, variées. Puis, vous savez, les agents de bord, parfois, sont difficiles à connaître dans des avions.
Oui.
Et il y a toutes sortes de costumes qu'on trouve selon les différentes compagnies aériennes.
Oui, puis toi, t'en as essayé plusieurs.
J'en ai...
Des compagnies aériennes.
Des compagnies aériennes, bien sûr. Alors, bah, restez avec nous, hein. Vous allez apprendre toutes sortes de choses nouvelles qui se passent dans le monde. Alors, les oiseaux, toutes sortes d'informations qui sont tirées de Québec Oiseaux, été 2005. D'abord, le braconnage...
2015. T'as dit 2005.
Quand même, 10 ans plus tard.
Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont morts depuis ce temps-là.
Oui. Parfois, j'aimerais me retrouver en 2005.
On va y
Donc,
arriver.
Le braconnage d'oiseaux migrateurs. La chasse illégale aux oiseaux migrateurs est répandue en Europe à un point tel que des militants qui appartiennent à... L'organisme qui s'appelle Committee Against Bird Slaughter, Comité contre le massacre des oiseaux, ils vont jusqu'à risquer leur vie pour mettre fin à ce massacre. Mm. Ils ont fait un documentaire qui est intitulé Emptying the Skies, en train de vider le ciel. Et ça expose toute l'ampleur des activités de braconnage qui donnent lieu à un marché noir très lucratif, vous savez. 500 millions d'oiseaux chanteurs sont abattus chaque année pendant leur migration entre l'Europe et l'Afrique.
Mmh.
Retenez ce chiffre, hein, 500 millions.
C'est énorme.
Énorme, hein? Les malheureux sont attrapés à l'aide de filets à mailles très fines qui permettent la capture de dizaines de milliers d'oiseaux au cours d'une seule nuit. Entre 10 et 15 % des espèces d'oiseaux de la planète sont en danger actuellement, dont la moitié environ est constituée d'oiseaux migrateurs. Alors, l'abattage illégal de millions d'oiseaux ne peut faire autrement qu'aggraver leur déclin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et la chasse aux oiseaux chanteurs est interdite depuis près de 40 ans en Europe. Ben, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de succès, hein, avec 500 millions d'oiseaux abattus. Et malgré ça, ce type de braconnage est très répandu dans le sud du continent. Et on peut même trouver des oiseaux migrateurs qui sont au menu de certains restaurants.
Mmh. Ah ben.
Oh, yeah, yeah.
Alors, les militants de l'organisme dont je vous parlais tout à l'heure, Committee Against Bird Slaughter, ils commencent à récolter le fruit de leurs efforts après des décennies de lutte acharnée. Vous savez qu'on a fait presque disparaître ici au Québec, de cette façon-là, au début de la colonie, les tourterelles.
Oui.
Oui, exactement de la même façon avec des filets.
Mm-hmm.
J'avais fait un topo là-dessus il y a quelque temps, tiré de Québec Oiseau d'ailleurs. Bon, un phénomène un peu inverse qui se pose ici au Québec dans le cas de la tourterelle. À partir de l'automne 2016, on pourra peut-être chasser la tourterelle triste au Québec. Vous savez, on l'entend partout, petit peu partout. Mm-hmm. Alors, c'est une grande première dans la province. L'espèce est protégée en vertu de la loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Cependant, ben, compte parmi les oiseaux considérés comme gibiers, ce qui ouvre la porte à une chasse potentielle. Mm-hmm. L'Ontario a déjà pris cette voie à l'automne 2013 en permettant une telle chasse. Cette province avait permis la chasse de tourterelles en 1955, laquelle n'avait cependant duré qu'une seule année.
Puis qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'en Ontario?
Bon, ailleurs au Canada, il est possible de chasser la tourterelle triste en Colombie-Britannique. Et ça, c'est depuis 1960. Aux États-Unis, et ça, j'ai été quand même étonné, cet oiseau est chassé dans 40 des 50 États. Autrement dit, presque partout. Et ça représente l'oiseau gibier le plus populaire et le plus récolté. Je me dis que tu en prendrais plein de choses. Hein. Oui. Ces dernières années, 17 millions de tourterelles y ont été abattues.
Ça dit-tu si c'est bon ou pas bon à manger?
C'est certainement excellent. Oui. J'en suis convaincu. On ne mentionne pas, on ne parle pas de gastronomie. Okay. Donc, c'est 17 millions chaque année, hein, et par près de 2 millions de chasseurs. Donc, chaque chasseur, en principe, capture 17 tourterelles. La tourterelle triste est au nombre des espèces d'oiseaux les plus abondantes et les plus largement réparties en Amérique du Nord. La population québécoise de tourterelles tristes a augmenté de 6,5% en moyenne de 1970 à 2012. Par contre, cette hausse a été moins marquée au cours de la dernière décennie. Donc, le Service canadien de la faune mène des consultations concernant l'ouverture potentielle de cette chasse dès 2016. Et évidemment, le regroupement Québec-Oiseau dont on tire beaucoup d'informations, le regroupement consulte actuellement ses membres pour orienter sa position. Donc, d'un côté, vous avez la chasse abusive en Europe pour les oiseaux migrateurs, et de notre côté ici, on est en train d'ouvrir la porte pour la chasse à la tourterelle triste qu'on trouve un peu partout. Wow, est-ce que c'est une situation triste? On ne le sait pas. Donc, je peux passer, j'ai eu le temps de vous apporter une autre information sur la musicalité des oiseaux. C'est le chant mélodieux de la grille solitaire qui a été décortiqué par un groupe de spécialistes autrichiens. Il semblerait que ce chant, tel que perçu par les amateurs d'oiseaux, s'apparenterait réellement à celui d'une mélodie qui est produite par les humains.
Comment on peut dire qu'un chant est mélodieux?
Ça, je l'ignorais totalement. Je l'ai appris en disant Québec-Oiseau, bien sûr. Alors, deux notes s'harmonisent bien lorsqu'elles s'enchaînent selon une suite précise. Ce genre de relation entre les notes définit les accords les plus communs et les plus mélodieux en musique. En analysant 70 chants de la grille solitaire, les chercheurs ont pu observer que les notes produites par ces oiseaux suivaient une séquence mathématique, une séquence établie, et comme celle de la plupart des accords humains qui composent les mélodies humaines. Alors, les auteurs de cette découverte ont aussi observé que cette griffe pouvait produire d'autres notes, mais qu'elle choisissait de produire les accords les plus harmonieux. Et vous vous rappelez que André nous avait parlé de l'imitation de certains oiseaux pour les marteaux-piqueurs et autres choses semblables. Donc, je pense que la grive a un chant beaucoup plus mélodieux que ce dont André nous avait parlé. Ah, je t'ai tiré de Québec Oiseau, été 2015, on a bien dit, hein?
Oui, 2015. Alors, de mon côté, je vous lis un article qui s'intitule « Je vous écris du Cairn ». C-A-I-R-N. Oui. Mais je pense, Michel, tu as une autre prononciation.
Ben, c'est-à-dire qu'en Australie, la ville existe et là-bas, ils prononcent « Cairn ».
Cairn. OK. Mais là, nous, on reste du côté de l'Écosse.
On reste en Écosse, là.
Mais ma prononciation n'est pas nécessairement aussi bonne quand même.
Non.
Alors, la semaine dernière, je vous avais promené dans Glasgow. Là, on est aux portes de Glasgow. Parce qu'il s'étale une région réputée pour ses paysages, ses whiskies et son monstre. Alors, c'est un article qui est publié le 4 juillet 2015 et écrit par Caroline Parent, qui est collaboratrice pour le journal Le Devoir. on ne mettra pas bien longtemps à troquer le panorama de l'ancienne ville industrielle, Glasgow, pour celui tantôt verdoyant, tantôt drôlement hostile des Highlands. En moins d'une heure de route, nous voilà à Loch Lomond, le lieu de villégiature favori des Glaswegiens, situé dans un cadre particulièrement pittoresque, selon notre guide. Mais lorsqu'il fait un temps terriblement écossais, lire « pluvieux, brumeux et d'à peine 15 degrés centigrades à la mi-juin », on ne verra pas grand-chose de l'endroit où est concocté le whisky préféré du capitaine Haddock.
C'est à cause de la température qu'ils prennent le whisky, évidemment. Mmh.
Sûrement pour se réchauffer.
Ben oui, ben oui.
Ironiquement, le soleil choisit de se montrer à la hauteur du Glencoe, la « vallée sombre » en gaélique écossais, que vous avez peut-être admiré dans le dernier James Bond, Skyfall. Il révèle dès lors ce que nous espérions contempler, d'étroites vallées, de profondes dépressions devenues lacs, les fameux lochs. Les sommets nappés de neige des Cairngorms et autres reliefs naguère tourmentés par la glaciation. Pendant longtemps, ce territoire fut considéré dangereux, car pas trop civilisé, nous dit la guide Juliette Turner. Des tribus y vivaient en clans qui, pour l'essentiel, élevaient du bétail et volaient celui du clan voisin. Ils étaient donc toujours en guerre. À Glencoe, chaque année, on commémore d'ailleurs le massacre des MacDonald par des membres du clan Campbell, survenu en 1692.
Ah, c'est des noms connus, ça, hein?
Oui, dans le domaine de la bouffe.
Non, je ne sais pas ça à quoi je pensais.
C'est pas ça, tu... La tuerie, une affaire de religion, semble-t-il, frappa d'autant plus les esprits que les agresseurs, en passant plusieurs jours sous le toit de leurs victimes, avaient brisé les lois sacrées de l'hospitalité des Highlands. Aujourd'hui, 250 000 Écossais sur 5,3 millions y sont éparpillés, et certainement 1000 fois plus de moutons et de coos. Coos, c'est C-O-O-S. C'est des grosses vaches à poils longs. Même qu'il arrive que la route semble juste assez large pour elles ou les randonneurs. À Fort Augustus, nous découvrons une section du canal calédonien, construit au début du 19e siècle. Il avait pour but de faciliter la navigation des voiliers entre la mer du Nord et l'océan Atlantique. Alors, il y a eu des canaux aussi dans d'autres régions que le canal de Suez.
Ah oui, oui, oui. Ah oui.
Pour ce faire, il relie de façon ingénieuse plusieurs voies d'eau existantes, dont le Loch Ness.
Mmh. Ah, c'est le Loch Ness avec le mont sous-marin?
Eh oui, le Loch Ness. Et nous voici donc au lac qui a fait couler tant d'encre. Avec ses 37 km de long, ses 56 km² de superficie, sa profondeur qui atteint 230 mètres par endroit, bonjour fissure glaciaire, ses eaux froides et sombres, ainsi qu'une vieille légende celtique attribuant un monstre à la région du Grand Glen, le Loch Ness réunissait tous les ingrédients nécessaires à l'élucubration d'un bon canular, et il y en eut plus d'un. Un témoin a déjà produit des empreintes de la créature qui se sont avérées celles d'une même patte droite d'hippopotame, explique toujours notre guide. Le Daily Mail lança jusqu'à une chasse à Nessie. Nessie, c'est le nom qu'on a donné au monstre. Après avoir publié une photo, truquée évidemment, d'une tête de serpent aquatique, ce qui enflamma l'imagination populaire. D'ailleurs, en 1933, le monstre du Loch Ness attirait tellement de touristes que l'Autriche adressa une lettre au gouvernement britannique accusant l'Écosse d'avoir inventé de toutes pièces l'histoire de l'étrange créature du lac.
Oh, j'espère que tu n'es pas en train de me dire que le monstre n'existe pas.
Comme la lutte. Au fil des ans, un nombre suffisant de témoignages crédibles a toutefois incité la communauté scientifique à enquêter et l'année dernière encore, assure notre guide, des images satellites ont détecté un requin bizarre. Alors, si une croisière en catamaran sur ce magnifique plan d'eau n'offre pas l'ombre d'une chance de croquer un selfie avec Nessie, tout n'est pas perdu. On peut en effet descendre au château Urquhart, dont les ruines médiévales sinistres à souhait par temps écossais peuvent certainement procurer un petit frisson à quiconque possède une once d'imagination. Je termine cette lecture sur le tourisme dans la région de Glasgow par un petit encadré qui se lit comme suit. C'est intitulé « Les soirs de scotch ». Les touristes constituent, somme toute, une nouveauté à Glasgow, nous dit Juliette Turner, la guide, qui est originaire, elle, d'Édimbourg, la capitale et la ville rivale. Sans rien vouloir enlever à mes compatriotes, cela pourrait expliquer que vous trouviez les Glasvégiens si affables. Si gentiment fouineurs aussi. Dans les pubs, pas moyen de siroter son scotch en solo sans que quelqu'un nous pique une jasette, commençant par « You're not from here, are you? » ou en français « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? »
Alors, vous savez qu'on a notre propre monstre ici au Québec, hein?
Dans la raie d'or?
Ah oui, au lac Manfred-Magog.
OK, j'ai eu peur parce que tu me regardais.
Oui.
Au lac Manfred-Magog, là, c'est Manfred, je pense.
Manfred, je pense. OK. Si même, ouais, bon.
Alors, les articles « Je vous écris du Cairn » et « Les soirs de scotch » étaient des articles écrits par Caroline Parent qui s'est rendue en Écosse à l'invitation du Glasgow City Marketing Bureau. Puis, ces articles ont été publiés dans Le Devoir du 4 juillet.
Oh,
voilà, c'était Skyfall de Adele. Alors maintenant, je vous lis un article dont le titre est « L'humain a enclenché la sixième grande extinction ». C'est un texte d'Alexandre Shields, publié dans Le Devoir le 20 juin 2015. Le rythme d'anéantissement des espèces vivantes sur Terre est tel que l'humanité est en train de provoquer la sixième extinction de masse de l'histoire de la planète, conclut une nouvelle étude scientifique internationale. Les chercheurs préviennent d'ailleurs qu'il reste de moins en moins de temps pour éviter une catastrophe qui aura des effets dévastateurs pour la vie humaine. Nos estimations révèlent un recul exceptionnellement rapide de la biodiversité au cours des derniers siècles, ce qui indique qu'une sixième extinction de masse est en cours, constatent les auteurs de cette étude publiée récemment dans Science Advances, un périodique produit par l'Association américaine pour l'avancement des sciences.
Pourquoi on parle d'une sixième extinction de masse?
L'analyse insiste sur le fait que notre société a commencé à détruire les espèces des autres organismes vivants à un rythme accéléré, amorçant ainsi un épisode d'extinction massive sans précédent depuis 65 millions d'années. Lors de cette cinquième extinction de masse, ce sont les dinosaures qui ont été rayés de la carte, probablement en raison de la collision d'une météorite avec la Terre. Aujourd'hui, c'est toutefois l'être humain qui est responsable de cet anéantissement mortifère, insistent les chercheurs. Ils ont ainsi évalué que le taux dit naturel de disparition des espèces de vertébrés, on parle des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons, est de 2 espèces par siècle pour un échantillon de 10 000 espèces. L'analyse des données historiques et actuelles sur les vertébrés indique toutefois que ce taux est de 25 à 100 fois plus élevé selon le type de vertébré. Concrètement, sans intervention humaine, un total de 9 espèces auraient disparu depuis 1900. Mais les données scientifiques ont recensé pas moins de 477 disparitions d'espèces depuis le début du 20e siècle. On y retrouve 158 espèces de poissons, 146 espèces d'amphibiens, 80 espèces d'oiseaux, on en parlait tantôt,
oui,
et 69 espèces de mammifères. L'étude souligne d'ailleurs que si le taux naturel d'extinction prévalait, il aurait fallu plusieurs millénaires pour voir disparaître autant d'espèces. C'est très déprimant parce que nous avons utilisé les taux, ce sont les chercheurs qui parlent, nous avons utilisé les taux les plus modérés, mais malgré cela, ils sont beaucoup plus élevés que le taux normal d'extinction, fait valoir l'un des co-auteurs de l'étude. Cela nous indique que nous assistons à des pertes massives d'espèces.
Là, Marie, explique-moi comment les chercheurs peuvent mesurer l'impact humain dans cette étude-là.
Alors voilà, preuve irréfutable de l'impact de l'activité humaine sur le recul abrupt de la biodiversité terrestre, les chercheurs notent que les taux d'extinction ont augmenté significativement au cours des 200 dernières années, ce qui correspond à la montée de la société industrielle. La vaste majorité des disparitions dûment répertoriées depuis 1500 ont eu lieu depuis 1900. Cette très brève période de l'histoire a été marquée par une croissance sans précédent de la population mondiale qui va de pair avec une hausse significative de la consommation et de la destruction des milieux naturels. Ce dernier phénomène se poursuit d'ailleurs toujours inexorablement. En fait, au rythme où l'humanité détruit les zones naturelles pour faire davantage de place à l'agriculture, près de 10 millions de kilomètres carrés de ces terres disparaîtront d'ici 2050, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Il est vrai que la croissance de l'empreinte écologique de l'humanité est constante. Ainsi, chaque année, le monde consomme des ressources équivalentes à 150 % de ce que la planète est en mesure de produire sur une base annuelle. Plus de 80 % de la population mondiale vit dans des pays qui utilisent plus que ce que leurs propres écosystèmes peuvent renouveler. Si tous les humains consommaient comme les Canadiens, il nous faudrait l'équivalent de 3,5 planètes pour assurer notre subsistance. Le recul de la biodiversité est un des problèmes environnementaux les plus critiques, puisqu'il menace directement les services que les écosystèmes rendent à chaque instant à l'humanité, rappelle en outre l'étude. Si le niveau actuel d'extinction se maintient, les humains seront bientôt, soit dans aussi peu de temps que l'équivalent de 3 durées de vie humaine, privés de plusieurs bénéfices tirés de la biodiversité, concluent justement les scientifiques. À échelle humaine, ces pertes sont permanentes Parce que, à la suite des extinctions de masse, le vivant a besoin de centaines de milliers, voire de millions d'années pour se régénérer. Selon les chercheurs, il est certes toujours possible d'éviter le pire en mettant en place des efforts intensifs de conservation, mais les chances d'y parvenir s'amenuisent rapidement. Il faut dire qu'en plus de la destruction des habitats et les problèmes de pollution, les espèces vivantes sont de plus en plus aux prises avec les impacts des bouleversements climatiques. D'après les conclusions d'une étude britannique publiée dans la revue Nature Climate Change, quelque 55 % des plantes et 35 % des animaux devraient voir l'espace propice à leur existence réduit de moitié d'ici 2080 à cause du réchauffement climatique si la tendance actuelle se poursuit. C'était un texte d'Alexandre Shields, publié dans Le Devoir le 20 juin dernier.
Alors, pour faire suite à mes articles sur l'Écosse et surtout la petite mention sur « You're not from here, are you? » Ça m'a fait chercher un petit peu les personnes célèbres en Écosse et j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est M. James Bond lui-même, Sir Sean Connery.
Oui, oui, qui est un véritable nom, hein? Un ornithologue.
Oui. Ah oui? Oui. Et puis l'autre, pour les amateurs de Star Trek, c'est Scotty, c'est l'ingénieur de bord qui disait toujours au capitaine « On peut pas faire ça, capitaine, on peut pas! » Alors, restez avec nous, excusez-moi. Au retour, on s'en va dans les airs pour les
habits. Oui, on s'en va en l'air, c'est ça.
On reste en l'air avec les moustiques.
Oui.
Puis moi, je vous fais faire un petit tour de Montréal en lumière.
Écoutez Kiosque Magazine.
Alors, vous savez que l'habit ne fait pas le moine?
Non, effectivement. Bon,
généralement, c'est ce qu'on dit. Hein? Mais l'habit fait l'argent de bord, cependant.
Okay.
C'est Sophie Pourron qui nous en parle dans la presse. C'est une série dont je vous reparlerai ultérieurement, parce que toutes sortes de choses sur les aéroports. C'est une série sur les observations qui ont été faites dans les aéroports. Donc, l'habit fait l'argent de bord, c'est dans la presse du 27 juin. Alors, même quand on prend l'avion toutes les semaines, ce qui n'est pas mon cas, puisque je suis ici avec vous, on n'oublie jamais notre vulnérabilité quand on est à 30 000 pieds dans les airs. C'est, consciemment ou non, l'habit officiel du personnel, il me semble que ça a quelque chose de rassurant. Alors, les équipages, on les voit déambuler dans les aéroports comme s'ils étaient sur des passerelles de mode et ils ne passent jamais inaperçus, hein? Bien que parfois dans l'avion, il passe inaperçu.
Oui, c'est ça, c'est malheureux un peu.
Alors, suivant la mode et l'ère du temps, leurs uniformes ont évolué depuis le début de l'aviation commerciale, et ça, c'est à la fin des années 50. Reconnaissant l'importance et l'impact du look des agents de bord, plusieurs compagnies aériennes ont fait appel à de grands noms de la mode. Les couturiers pour habiller leur personnel de bord. On pense, par exemple, à Qantas. Qantas, c'est la ligne australienne. Mm-hmm. Ils ont fait appel à Pucci. Et pour Cathay Pacific, Nina Ricci, pour ceux qui connaissent la mode.
Oui,
ce sont de grands noms,
oui. Bien sûr.
Et vous avez aussi Christian Lacroix pour Air France. Et ce dernier a véritablement redonné de la classe et du glamour, à son vieux, aux agents de bord. Par exemple, il y avait des je ne sais pas si là encore, ça fait longtemps que j'ai pris Air France, des gants de cuir rouge.
Ah bon?
C'est de la classe, hein? Mm-hmm. Et même si vous avez le privilège de voyager en première classe, je vous parle toujours d'Air France, le privilège de voyager en première classe, on vous offre même un pyjama du designer Christian Lacroix. C'est très chic. Bon, je peux vous dire que, entre nous deux, votre pyjama, vous allez l'avoir payé, hein?
Certain.
Et dans une classe à part, un peu d'une autre époque, disons-le, l'équipage principalement féminin de Singapore Airlines impose le respect et suscite aussi l'admiration par sa grande beauté et son élégance. Ah,
pourquoi ça suscite l'admiration?
C'est parce que c'est inspiré, le costume est inspiré d'un costume traditionnel, le sarong kebaya. J'aimerais être capable de vous le décrire. C'est vraiment très joli.
C'est beau.
C'est très local. Et c'est porté par les femmes depuis 1972. Et ça a été créé par le couturier français Pierre Balmain.
Ah oui.
Et je peux vous dire aussi que Qatar Airways aussi a des costumes de cette nature. Il assure à Singapore Airlines une image de marque très forte. Alors, bien que le marketing de la Singapore Girl a été critiqué parce qu'on dit son côté sexiste, on n'est pas prêt de changer la formule gagnante. Presque 5 décennies sans retouche. Hein, on appelle ça quand
c'est
même
bon.
On appelle ça
un classique.
Un classique.
Tout à fait.
Et je peux vous dire que les hôtesses sont vraiment, bon, appelons des agentes de bord si vous préférez, sont vraiment sélectionnées. Vous entrez en avion, vous avez l'impression de voir le même modèle. Mm-hmm. C'est évidemment très sexiste, mais aussi très joli.
Oui, parce qu'on ne parle pas des costumes des agents de bord masculins.
Non, très c'est peu. Ça. C'est ça. En 1967, British Airways a osé une robe en papier. Qui était cependant ininflammable, hein? Et pour ses hôtesses. Et sur les vols allant de New York aux Caraïbes, les hôtesses pouvaient couper elles-mêmes le bord, mais pas plus court que 3 pouces au-dessus du genou. Et ils devaient le porter avec des petits chaussons verts.
OK.
Et, fait étonnant, ces jolies robes fleuries étaient à usage unique. Était jeté après chaque vol.
En papier,
en papier, hein,
c'est
dont on parle.
C'est
assez étonnant, d'ailleurs. J'ai une photo ici, c'est surprenant. Ça, je ne connaissais pas. Plusieurs compagnies aériennes privilégient une couleur dominante. On associe la compagnie à cette couleur-là pour leur uniforme, afin de le distinguer, de ressortir du lot, surtout du lot des passagers,
oui.
Disons.
Mm-hmm.
Mm-hmm. On pense totalement à KLM, le bleu royal de KLM.
Oui.
Très typique. Et aussi Thai Airways, qui est le mauve. Austrian Airlines, la compagnie autrichienne, a poussé le concept un peu plus loin, un peu plus fort, avec le rouge. Non seulement les robes et vestons sont-ils rouges, là on parle des hommes, hein, vestons,
oui.
Mais les chaussettes et les souliers aussi. Ah, tout en rouge.
C'est
ce qu'on appelle un uniforme. Hein?
Oui.
OK, mais on ne se trompe pas, par exemple.
Non,
on les reconnaît.
Ah, je peux vous dire qu'on les reconnaît. Vous avez chez Korean Air, c'est le foulard qui est rapidement devenu un objet de convoitise, une véritable pièce de collection. Il y a une de ces pointes qui tient toute seule en l'air, comme si elle était là par gravité, anti-gravité, disons. Mm-hmm. Étonnant, hein? Et vous avez un monsieur, un commissaire de bord pour KLM, qui est un passionné d'uniformes. Il collectionne des photographies pour son site web depuis de nombreuses années. C'est un véritable musée chez lui, à travers les époques, qui contient plus de 1294 uniformes de 480 compagnies aériennes différentes. Et son site, c'est Uniform Freak.
Puis, est-ce que tu nous amènes au Québec en finissant?
Ah bien, chez nous, on ne peut pas dire que les uniformes des agents de bord d'Air Canada, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mme Sophie Fouron ici, des uniformes des agents de bord d'Air Canada soient flamboyants. Ils ressemblent à l'idée qu'on se fait d'un uniforme.
Okay.
Simple, pratique, sobre et parfois difficile à reconnaître. On est loin des années 70 où le couturier montréalais Léo Chevalier a été mandaté pour dessiner l'uniforme des hôtesses. Le résultat, c'était un véritable défilé de mode dans les airs avec plus de 50 morceaux à agencer et la possibilité de créer 300 combinaisons différentes. Hein? Autre temps, autre mœurs. Hein?
Mm-hmm.
Donc, c'est un petit aperçu des uniformes dans des airs. Il y en a même d'autres. Et c'était dans la presse du 27 juin.
De mon côté, je vous lis l'article « Le virage lumière des villes nordiques ». Article paru dans Le Devoir du 25 juillet et écrit par Monique Durand, collaboratrice. La lumière artificielle est aussi une lumière. Et les villes de l'hémisphère nord, enveloppées dans la nuit une bonne partie de l'année, en jouent allègrement et de plus en plus. À commencer par Montréal, dont le profil hiver comme été a changé radicalement depuis quelques années en raison de l'éclairage public. Le complexe des jardins en vert, le quartier des spectacles en teintes évanescentes de rose et de jaune, jusqu'au mât olympique qui, la nuit, s'anime de couleurs plus costaudes, bleu, mauve, rouge. L'éclairage change tout et invente une autre ville. Depuis 2 décennies, Montréal, comme d'autres grandes villes nordiques, a pris un virage lumière pour mettre en valeur certains de ses édifices de marque, mais aussi pour atténuer les effets de la noirceur hivernale, pour transcender le noir infini de l'hiver et de nos âmes confites de froid.
Oh.
Vers la fin des années 1990, des représentants des milieux politiques, économiques et culturels se réunissent avec l'objectif d'insuffler un dynamisme nouveau à la ville pendant la saison froide. Un consensus se dessine. Il faut de la lumière. On élabore un plan qui prévoit trois initiatives importantes. L'éclairage du Vieux-Montréal d'abord, puis du centre-ville. La mise sur pied d'un festival d'hiver dédié à la lumière. Et enfin, l'invitation faite aux artistes et designers à créer des œuvres lumineuses inspirées par l'hiver. Jusqu'alors, la métropole du Québec s'était définie comme une ville nord-américaine et ville française. Elle serait désormais aussi ville d'hiver. Il fallait assumer l'hiver en nous et se servir de ses caractéristiques comme tremplin plutôt qu'infortune du destin. La noirceur devenait écran noir où projeter des images, des animations, de l'art numérique et même des jeux interactifs sur les surfaces monumentales et architecturales. Elle devenait aussi une vaste scène au cœur de festivals et d'événements divers, tels Montréal en lumière, Igloo Fest et la Nuit blanche, qui allaient illuminer, enluminer des quartiers de la ville autrefois désertés pendant l'hiver. En même temps que se raffinaient les techniques d'éclairage, deux projets majeurs de développement urbain suivaient leur cours où la lumière tiendra un rôle essentiel. Celui de Montréal, ville souterraine, cité intérieure à nulle autre pareille dans le monde, où la forêt d'arbres roses du designer Claude Cormier, par exemple, fait littéralement flamber le béton du Palais des Congrès. Second projet majeur, la place des festivals, dont les jeux d'éclairage adaptables se transforment été comme hiver en un hallucinant champ de lumière.
Alors, on constate, comme Montréalais, on a tendance parfois à négliger le côté spectaculaire de notre propre ville.
Oui, puis on commence à être d'ailleurs reconnu ailleurs dans le monde. Ces innovations drainent des foules sans cesse plus considérables. La désolation de l'hiver envolée, l'opacité de la nuit évanouie, la vie sous tuque et parka devenue plus humaine. National Geographic vient de consacrer la métropole l'une des 10 meilleures destinations touristiques d'hiver au monde et la seule en milieu urbain.
Quand même,
c'est prestigieux, ça. Mm-hmm.
Oui, mais si c'était trop de lumière, trop de couleurs. Dans la plupart des grandes villes du monde, il est devenu impossible d'apprécier la beauté de la voûte céleste. Les lampadaires ont éteint le ciel, dit l'astrophysicien Hubert Reeves. La pollution visuelle induite par la lumière est une forme de dégradation environnementale où les immenses tableaux clignotants, les néons, l'éclairage parfois outrancier des rues, des édifices, des monuments affectent notre santé et tout l'écosystème. Et cette dilution de la nuit nous coupe d'une part de l'univers et de nous-mêmes. Alors, plus il y a de lumière, plus nous vivons aveugles? L'érosion de la nuit des zones urbanisées sous l'effet de la lumière artificielle donne un attrait nouveau à la nuit noire telle qu'elle existe encore dans les contrées isolées, souligne un groupe de recherche français qui s'intéresse à la nuit. Mais voilà, les contrées isolées sont de plus en plus rares et lointaines. Dans le moindre patelin à présent, on éclaire. Jusqu'à Mange-d'Épée en Gaspésie, le long de la rivière, où on a apporté la lumière à Arlette Fortin, une conseillère municipale qui n'en demandait pas tant. J'avais choisi cet endroit un peu perdu pour la paix, le contact avec la nature et la noirceur. La municipalité est venue installer un énorme lampadaire. Mes chambres sont éclairées de façon insupportable la nuit. Et fini la petite et la grande ours.
Il va falloir trouver un équilibre, ou chercher un équilibre, en tout cas, entre la lumière et la noirceur.
Effectivement. Et surprenamment, le Québec a inauguré en 2007 la première réserve internationale de ciel étoilé au monde située au Mont Mégantic.
Ah oui.
Une autre a été créée sur le pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées françaises. Nous en sommes là à devoir protéger des traits carrés de ciel comme de fleuves et de territoires. De plus en plus de chercheurs, architectes, designers, paysagistes œuvrent à réconcilier éclairage urbain et environnement nocturne. Il y a des éclairages qui, par leur grâce et leur subtilité, nous redonnent la nuit. Comme certains vins nous redonnent la terre et l'odeur du varech toute la mer. Qui a vu, le soir, la cour intérieure du Petit Séminaire de Québec ou le dôme de la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Montréal sait ce qu'est la nuit. Et le long rayon blanc, pas coloré, non, juste blanc, émanant du gyrophare de la place Ville-Marie, tournant inlassablement sur la ville, sur nos balcons d'été, sur tout ce que nous sommes, et beaucoup plus loin. Rayon de nuit.
Vous savez où on découvre le ciel étoilé, le meilleur endroit, le plus bel endroit?
Non, vas-y.
C'est en pleine mer.
Bien sûr.
C'est magnifique. Ouais.
Alors, c'était l'article « Virage lumière des villes nordiques », article paru dans Le Devoir du 25 juillet, écrit par Monique Durand, collaboratrice.
Non, mais mon laisse un mosquito. Non, mais mon laisse un mosquito. Non, mais mon laisse un mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non mais mon laisse tes mosquitos. Non mais mon laisse tes mosquitos. Non mais mon laisse tes mosquitos. Retourne chez toi. Tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y a des pays pleins de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas.
Alors, c'était le toujours populaire Joe Dassin avec
Voilà, qui continue à être populaire, Joe Dassin. Il passe à travers le temps.
Tout à fait. Un classique.
Oui.
Alors, je vous lis « Aïe, moustique, ne me pique pas », un texte de Ève Christian publié sur le blog science du site iciradiocanada.ca le 16 juillet dernier. Vous pensez être la cible préférée des moustiques dans un groupe? Ce n'est peut-être qu'une impression, mais attention de ne pas faire en sorte qu'ils vous préfèrent. Les moustiques sont d'abord attirés par la chaleur. Attention, masse chaude à l'horizon, c'est probablement ce que se disent les insectes piqueurs quand ils aperçoivent un mammifère, que ce soit un animal ou un homme, car c'est comme ça qu'ils nous repèrent en premier lieu. Une fois à proximité, ils vont détecter le CO2 qu'on émet. Ensuite, c'est la chimie corporelle qui joue un rôle, selon ce qu'a montré une expérience américano-britannique faite avec des couples de jumeaux identiques et non identiques. Face à des jumeaux identiques, donc ayant le même code génétique et la même chimie corporelle, les moustiques n'ont pas de préférence. Par contre, ils attaquent davantage l'un ou l'autre des jumeaux non identiques.
Et pourquoi ils nous piquent, les moustiques?
C'est intéressant. D'abord, il faut savoir que seules les femelles s'adonnent à cette activité et ce n'est pas par loisir, mais par nécessité. Elles ont besoin d'un repas sanguin pour aller chercher les protéines et non le sucre qui servira à la reproduction. Après leur prise de sang, elles vont se reposer pour digérer et ingérer les protéines afin de procéder à la maturation de leurs œufs qu'elles iront ensuite pondre. C'est dans ce seul but qu'elles piquent. Selon les individus, les réactions aux piqûres sont plus ou moins importantes. En piquant, La femelle injecte de la salive et un anticoagulant afin que le sang reste liquide dans sa trompe lorsqu'elle le pompe. C'est notre intolérance à ces substances qui crée les boursouflures sur notre peau et qui nous démange. Mais il y a de l'espoir. Les gens qui travaillent dans un milieu foisonnant de moustiques semblent moins sollicités avec le temps et certains se rendent moins compte qu'ils se font piquer.
Maintenant, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des moyens d'éviter ça ou de se protéger des piqûres de moustiques?
Alors, afin de mettre les chances de son côté, première chose, mieux vaut éloigner de la maison tout contenant à ciel ouvert qui accumule l'eau stagnante, car elle favorise la reproduction des moustiques. Évitez aussi d'être à l'extérieur, ça, on essaie, là, au moment privilégié par les moustiques, c'est-à-dire avant la pluie, au crépuscule ou lorsque l'humidité est présente. Alors, cette semaine, restez chez vous. En raison de leur corps frais, les moustiques ont un grand besoin d'humidité qu'ils laissent entrer par de petites ouvertures sur le côté de leur corps. Si le temps est trop sec, ils risquent la mort par dessiccation. Ils sont donc moins actifs quand le soleil est présent. Les insectifuges, ou dites, le diéthyl-M-toluamide, sont reconnus, mais comme il s'agit d'un ingrédient chimique, il est préférable de vérifier la concentration dans le produit avant de l'utiliser. En bas de 25 %, c'est largement suffisant pour éloigner l'insecte désagréable. Scientifiquement, le DEET bloque les récepteurs qui permettent aux insectes de déceler la présence chimique d'une proie. D'ailleurs, il n'est pas recommandé de l'appliquer sur les jeunes enfants. Petit conseil, on peut vaporiser ce produit sur nos vêtements ou sur un foulard qu'on noue autour de la jambe ou du bras plutôt que directement sur la peau. En grande concentration, ce dissolvant peut faire fondre le plastique, il faut le savoir. Par contre, la citronnelle, qui avait fait l'objet d'un débat ces dernières années, est reconnue, même si son efficacité répulsive est moindre. Alors, quelques questions, un test. D'après vous, vrai ou faux? Les moustiques aiment bien les buveurs de bière.
Pour moi, c'est faux.
Moi, je dirais que c'est faux aussi, même s'ils sont chauds.
Alors, c'est vrai, messieurs, car la bière augmente le taux d'éthanol dans la sueur et hausse la température corporelle.
Donc, les moustiques aiment
sont attirés par la chaleur.
Oui. Okay. Les moustiques visent les mangeurs de viande et d'aliments contenant les gras saturés. Vrai ou faux?
Moi, j'ose croire que faux.
C'est vrai, messieurs, en raison de la production d'acide urique. Vrai ou faux, les mets épicés attirent les maringouins?
C'est vrai.
Oh là, j'espère vraiment que non.
Yvan, t'as raison, c'est faux, car ils sont digérés avec le repas et n'interfèrent donc pas avec la respiration. Vrai ou faux, les diabétiques sont une cible convoitée?
Je n'ose plus répondre.
je croirais que non.
C'est faux! Les moustiques cherchent les protéines dans le sang et non le sucre.
Ah oui, c'est...
Les vêtements foncés attirent les moustiques.
Faux.
Faux.
Vrai. Une expérience démontre qu'ils préfèrent les carreaux noirs aux blancs sur un tissu. Ah, c'est intéressant.
OK.
Donc, logiquement, les peaux plus pâles se font piquer davantage,
ben
d'après
non, c'est
vous.
Faux.
C'est faux! Aucune preuve scientifique n'appuie cette idée.
Ah, OK.
Les haies de cèdre sont un endroit de prédilection pour les insectes.
Vrai.
Vrai. Mais ce n'est pas que les cèdres. Tout endroit ombragé sera toujours davantage visité par les moustiques. Et une dernière question. Le moustique est l'animal le plus meurtrier dans le monde.
Je pense que c'est vrai, ça.
C'est vrai.
Oui, oui.
Maringouins, mouches noires, moustiques et brûlots, en plus de ceux qui véhiculent des maladies comme le malaria et la dengue.
Combien y avait-il de questions?
Il y en avait huit.
J'en ai une sur huit. Ça fait quoi en pourcentage? Est-ce que je peux me retirer, s'il vous plaît? Vous finirez l'émission sans moi.
Reste à la radio.
Oui, c'était un texte de Ève Christian publié sur le blog Science du site Ici Radio. issoradiocanada.ca le 16 juillet.
Des manchots. D'abord, petite question en tant qu'un questionnaire.
Oui.
Est-ce
oui.
que vous connaissez la différence entre un manchot et un pingouin?
Non.
Comme ça, là, non.
Le manchot vit dans l'hémisphère sud, Et le pingouin vit dans l'hémisphère nord. Le pingouin peut voler, le manchot ne vole pas. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas nécessairement dans les endroits qui sont froids, comme l'Arctique ou l'Antarctique. Il y a des pingouins, par exemple, aux Galapagos. Mm-hmm. Et la confusion peut venir aussi du terme anglais, qui est penguin. Il fait pas la différence, le terme, entre manchot et pingouin. Donc, eux autres, c'est toujours des pingouins, de toute façon. Bon, voilà, petit aparté. Maintenant, les manchots seraient dépourvus de 3 des 5 goûts de base. Je vous poserai pas la question, quels sont les 5 goûts de base?
Le sucré, le salé, l'amer.
C'est sucré, salé, aigre, amer, et un que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'umami. Mm. L'umami, c'est un terme japonais qui veut dire ce qui est délicieux.
Ah,
OK,
oui.
Bon, ça me semble un peu subjectif, mais quand même. Donc, les manchots seraient dépourvus de 3 des 5 goûts de base. Ils seraient les seuls représentants aviaires à détenir ce triste record. Et 2 hypothèses ont été avancées pour expliquer cette absence. D'abord, les études précédentes ont déjà démontré que le gène qui commande la fabrication de la protéine essentielle pour ces 3 types de goûts ne fonctionne tout simplement pas à basse température.
Okay.
Donc, et, puisque les manchots étudiés vivent sous le climat froid de l'Antarctique, ils pourraient ne pas faire un bon usage de cette protéine. Bon, par la suite, une autre hypothèse est qu'une telle protéine serait superflue pour les manchots qui, plus souvent qu'autrement, avalent leur proie en entier.
Mm-hmm.
Donc,
mm-hmm.
ils goûtent très peu. Mm-hmm. Par contre, les manchots peuvent goûter des aliments aigres et salés, ce qui leur permettrait d'une part d'éviter la nourriture en putréfaction,
oui.
et d'autre part de concevoir leur consommation de sel qu'ils peuvent équilibrer. Donc, maintenant, vous savez tout, presque,
sur les manchots.
Sur les manchots et le goût des manchots.
Alors, la semaine dernière, on parlait de tortue lutte. Elle peut descendre à une profondeur de plus de 1000 mètres et rester sous l'eau plus d'une heure. On soupçonne que le cachalot macrocéphale est en mesure de doubler ce record de profondeur, lui qui a la capacité de s'immerger pendant près de 90 minutes.
Alors, issus de la technique de marche nordique, les bâtons de marche assurent la stabilité et augmentent la dépense énergétique de 20 à 40 par rapport à la marche traditionnelle, selon une kinésiologue. Dans les descentes, ils amortissent les chocs et diminuent la pression sur les articulations. L'idée est de s'en servir pour propulser le corps comme en ski de fond. Pour éviter les blessures et maximiser l'effort, il faut que le bras soit coordonné à la jambe opposée et que le bâton soit incliné, pointé vers l'arrière. L'effort est fait avec l'épaule et non pas le coude. Alors, si ça peut coûter assez cher des bâtons comme ça, on prend des bâtons de ski, ça fait la même chose. Et à condition qu'ils soient à la bonne hauteur, une fois que ceux-ci sont à la verticale, les coudes doivent faire un angle de 90 degrés et les mains ne dépassent pas les épaules.
Je parlais des costumes des agents de bord. J'en ai un autre ici. Rouge, vous connaissez Rouge, c'est la compagnie à bas coût d'Air Canada
qui a été
lancée en 2013. Eux autres ont misé sur un look jeune et décontracté. On croirait presque une troupe de comédie musicale. Enfin, un peu de couleur, quoi. Détail sympathique en plus de leur nom. Les agents de bord mettent leur ville d'origine sur leur épinglette afin d'encourager les conversations à bord. Alors, j'aime bien cette notion. De nom, avoir une identification.
Mm-hmm.
Ben, je crois, mes amis, qu'on est rendu à la fin.
On a fait le tour.
Ben, il semblerait que oui. On espère que nos sujets vous ont intéressé. On essaie d'être variés en termes de voyage, de nature, de science. Ben, on tient à remercier particulièrement Mathieu, qui est notre principal public ici en studio. Donc, c'est important de voir Mathieu devant nous,
oui,
de l'avoir.
C'est un bon public, à part ça.
C'est un très bon public. Et merci aussi à... c'était Yvan cette semaine qui faisait les choix musicaux.
Oui, c'est moi.
Qui sont toujours intéressants et pertinents, bien sûr.
Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le site canalm.org ou à vuesetvoix.com. Et on est vraiment intéressé à vos commentaires.
Certainement.
Alors, c'est canalmacommercialvuesetvoix.com. Écrivez-nous pour savoir si on est dans la bonne direction ou non.
On lit tout, hein, et on est même prêt à vous répondre.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Et on est en reprise. Pour ceux qui aimeraient nous réentendre ou dire à leurs amis, écoutez-nous, on est à 13h et à 21h. Là-dessus, on vous souhaite une très bonne semaine.
Une bonne semaine à tous.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Thank you.